Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 170e Comics Weekly, l'émission qui chronique les sorties comics US de la semaine. Nous sommes le jeudi 14 novembre, nous allons parler bien sûr de Marvel avec la sortie du one-shot anniversaire des X-Men pour les 50 ans, le X-Men Gold. Nous parlerons aussi de Cataclysme et de X-Men. La partie indé sera consacrée à l'arrivée enfin chez Valiant de Unity qui sort enfin, la suite de l'événement Walking Dead All Out War et bien sûr d'autres nouvelles séries. Enfin chez DC, nous parlerons de Batman numéro 25 et ses tie-in Zero Year ainsi que Forever Evil et Krypton Returns. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi cette semaine pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Flo.
Bonsoir les amis.
Bruno.
Bonsoir à toutes et à tous.
Valentin.
Hello les gens.
Et Mister Onebody.
Bonsoir les gens, bonsoir à tous.
Et toutes.
Et toutes.
Tout d'abord, avant de commencer cette émission, nous souhaitons vous remercier énormément de toutes ces félicitations que vous nous avez envoyées suite aux Golden Blog Awards que nous avons remporté. Chose que l'on ne croyait absolument pas possible, honnêtement. Je pense que Flo et Mr. Nebunny qui étaient à la cérémonie l'ont dit.
Oui, on était les premiers surpris. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu un petit peu quand même, notre surprise, avec ce discours extraordinaire.
En tout cas, c'est un immense honneur pour nous d'avoir remporté ce trophée.
Carrément.
Sérieusement, on ne s'y attendait absolument pas. C'est pas de la fausse modestie que de le dire. On pensait pas du tout pouvoir entrer dans la même catégorie que tous les autres qui avaient été sélectionnés, tous les autres shortlistés, avec des podcasts de talent. Et on est vraiment très très fiers et très heureux d'avoir remporté cet award. Voilà, c'est la voix pleine d'émotions qui se coupe.
Ouais, non, ça fait plaisir. Hein. Et vive les comics!
Ouais, longue vie à Comic City.
Nous allons bien sûr continuer l'émission de façon normale. N'y voyez aucun lien, n'est-ce pas, Flo?
Avec non, sauf que maintenant on va demander 100€ à chaque fois pour chaque émission.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est la notoriété, que voulez-vous?
C'est normal.
On va démarrer bien sûr la partie comics avec Marvel et ce X-Men Golden Blog Award numéro 1, One Shot. Ah, c'est ça que tu voulais que je fasse, Flo.
Oui, c'était vachement drôle. Non, mais c'était pour te donner la primeur, quoi, voilà.
C'est un numéro anniversaire que l'on va avoir dans les mains. Un gros numéro, puisqu'il contient une cinquantaine de pages nouvelles, plus une quinzaine de pages de previews des autres séries X-Men en cours, pour fêter les 50 ans de la franchise. Alors, on a fait appel à tout un tas d'anciens scénaristes qui ont vraiment marqué la franchise, entre autres Chris Claremont, bien évidemment, qui va remporter la plus grosse part de ce numéro avec une histoire qui fait pas loin d'une vingtaine de pages. Nous aurons aussi une petite histoire de Stan Lee avec des dialogues de Louis Simonson, dessiné d'ailleurs par Walter Simonson. Nous aurons aussi une histoire de Len Wein, qui a bien sûr créé le personnage de Wolverine, et enfin une histoire de Fabian Nicieza qui a marqué énormément les années 90. On va faire toutes les histoires, mais vraiment très très vite, de manière à pas perdre trop de temps. La première histoire par Chris Claremont se passe juste au moment où Rogue a rejoint l'équipe, et il y a une sentinelle géante en Chine qui crée des bébés sentinelles. Voilà.
C'est du Claremont, quoi. T'as le lieu géographique, la Chine, là en l'occurrence, il doit te parler de la population chinoise.
Ah, très sentinelles. Peu, très peu. Mais, c'est la Chine, c'est les sentinelles, c'est vraiment, on est dans les X-Men façon années 70, façon Claremont, fin des années 70, début des années 80. On est juste après le mariage raté de Wolverine et Mariko, ils viennent de revenir du Japon, Rogue vient juste de rejoindre l'équipe, donc elle n'a pas encore complètement la confiance de tous les membres de l'équipe, et on est du point de vue de Kitty, personnage que Claremont affectionne particulièrement.
C'est la Rogue Punk, du coup, un petit peu.
On a la Stormpunk, déjà, mais Rogue, non. Quoique.
Enfin, si, un petit peu à la jeune masse.
Sa mèche, en plein milieu, avec sa coupe, sa coupe de merde.
En rouge et noir, quoi. Oh, moi, j'aime bien.
C'est du classique. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver vraiment l'ambiance de l'époque. C'est très verbeux. N'est-ce pas, Flo?
Oui, c'est clair. Ouais.
Qui a lâché en cours pour cette histoire.
Ouais, j'ai pas fini.
Bah, ouais. Moi qui avais du mal, justement, j'avais écrit un mail comme quoi j'avais du mal à rentrer dans les vieux comics. Bah là, j'ai bien aimé cette petite histoire de Claremont. Et ouais, c'est pour moi l'une de la meilleure, je pense, du numéro, cette histoire.
Bon, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment une histoire sans prétention. Faut vraiment la prendre plus pour le côté les anciens qui reviennent sur le devant de la scène, histoire de faire un petit coup marketing et en même temps se faire plaisir, plutôt qu'une véritable histoire à mettre dans la continuité et qui fera date par la suite.
Ah oui, tout à fait.
Ou alors, si ça fait date, mon Dieu, les gens ont des goûts de chiottes. L'autre histoire, enfin, une autre des histoires, c'est celle de Stan Lee. Mon Dieu, que c'est laid.
Et mon Dieu, que c'est mal écrit.
Ah là là, enfin que c'est les, je veux dire l'histoire, parce que les dessins sont corrects, hein, mais l'histoire est absolument atroce. Hein. Les X-Men d'origine, ceux des années 60, font la course pour arriver à la salle des dangers, et celui qui arrivera le premier aura un rendez-vous avec Jean.
Oh, comme c'est intelligent.
Voilà.
Ça, c'est du scénario, hein. Et pourrait faire un crossover, un event là-dessus.
Ouais, pas grand-chose de plus à en dire, je crois. Histoire suivante, non. On retrouve Banshee et Sunfire avant leur rencontre dans le Giant Size X-Men et qui se retrouvent tous les deux à vouloir aller sur les endroits, enfin vers les endroits où est passé Elvis, les endroits marquants à Memphis, Tennessee. J'ai trouvé ça un peu ridicule, l'histoire de Roy Thomas. Moi perso, ça m'a fait chier, mais bon.
Bah, c'est pas terrible quoi.
C'est une histoire qui ne sert à rien. Essayer d'ajouter de la rétro-continuité comme ça, pour moi, c'est vraiment débile. Mais bon. L'histoire de Len Wein ensuite, c'est vraiment au moment du Giant Size X-Men numéro 1. Première page, on voit ces nouveaux X-Men. Et on va être dans la tête de Wolverine qui se dit qu'il peut tous les prendre un par un et les dégommer.
Ça, j'ai trouvé ça pas mal par contre. Ça correspondrait à l'état d'esprit du personnage lors de Giant Size X-Men. Du coup, je trouvais ça plutôt pas mal.
Enfin, l'histoire de Nicisa. Et l'histoire peut-être la plus compliquée, puisqu'il faut vraiment un gros bagage de comics années 90 pour arriver à la comprendre. On est dans une réalité alternative et Fabian Nicisa va replacer tous les plots auxquels il a participé, les plots marquants des années 90 au sein de ces quelques pages, tout ça dans une réalité alternative. Moi j'ai trouvé ça bien foutu. Par contre, vraiment, il faut du gros bagage années 90 pour tout comprendre.
Bah, je confirme parce que c'est l'histoire où j'ai rien compris. Parce que j'ai pas lu les numéros correspondants et du coup je me suis rendu compte que c'était une réalité alternative et du coup ça m'a plu parce que ça avait l'air c'est intéressant.
Bon, on s'en rend compte dès la première page que c'est une réalité alternative quand même.
Oui, bah oui. Mais du coup, ouais, tout ce que tu dis, tous les plots et tout ça, moi je les ai pas vus du coup.
Moi ça m'intéresse là du coup, là, cette histoire.
C'est, franchement, ouais.
Tu m'intrigues.
Une bonne petite histoire en 5 pages qui n'apporte rien si tu veux, mais qui te fait le gros clin d'œil aux années 90. Ce que voilà, pour moi c'est un peu ce genre de truc que j'attends d'un numéro anniversaire, surtout quand on fait appel aux anciens qui ont vraiment contribué à ce que cette franchise soit aussi populaire.
Est-ce que c'est un numéro anniversaire du coup à la hauteur des ambitions quand même, puisque c'est le 50e anniversaire je crois de la franchise.
Ça fait 3 numéros, enfin 3 histoires bien sur les 5. Donc, moi je pense que ça faut jeter un coup d'œil et voir si ça nous plaît.
Je suis énormément partagé moi pour donner un avis sur ce numéro. En termes de numéro one shot qui fait un clin d'œil, oui c'est pas mal, ça vaut le coup. Bon, les 15 pages de preview, on va pas trop revenir dessus, hein, c'est de la preview, vous aurez ça dans les prochaines semaines. Voilà. Maintenant, pour marquer les 50 ans, ça et Battle of the Atom, je trouve ça très 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 léger.
C'est la fête du slip chez les X-Men, hein, attention.
Personnellement, moi, ça, je suis un peu déçu de la façon dont ils fêtent les 50 ans. J'aurais espéré quelque chose de beaucoup plus grandiloquent. Je rappelle que pour les 30 ans de la franchise, ils avaient quand même fait se marier Cyclope et Jean Grey. C'était quand même un événement sacrément marquant qui avait apporté une grosse pierre à la franchise. Je suis pas sûr que Battle of the Atom apporte quelque chose qui durera autant dans l'histoire.
Oh, ils ont enfoncé le divorce entre les deux persos. Voilà.
Sont-ils vraiment divorcés?
Non, mais bien sûr, non, mais je plaisante un petit peu, quoi.
Mais oui. Non, je suis assez partagé, je sais pas, Flo.
Moi, c'est un pass, hein, ce truc. Je suis pas du genre nostalgique. Moi, je découvre les X-Men de Claremont actuellement et je suis très content de les lire, voilà, avec leur dans leur bain d'antan. J'ai pas envie de lire une histoire de Chris Claremont, en plus qui est assez introductive, on va dire, avec les personnages.
Mais c'est parce que tu n'es pas coucou, encore rendu
moi,
là.
Coucou, moi, mon pouvoir, il fait ça. Oui, c'est vrai, je l'aurai dans un peu plus tard. Là, j'y suis pas encore, mais. Non, voilà, pour moi, ça, voilà, j'ai pas ce côté nostalgique, donc je peux pas être sensible à ça.
Mais peut-être voilà. que tu apprécieras plus cette histoire quand tu auras terminé tout le run de Claremont, si tu y arrives un jour.
Honnêtement, je sais pas, parce que j'ai commencé à lire quand même pas mal de numéros. J'ai pas trouvé ça transcendant quand même, tu vois. On retrouve la patte de Claremont, mais c'est un peu daté, ça n'a pas grand intérêt.
En fait, je pense que cette histoire, tu la trouves intéressante quand tu as lu le run de Claremont et que tu as lu le retour de Claremont et le re-retour de Claremont ensuite.
Oui, c'est vraiment. C'est
et là,
vraiment
finalement, tu te dis, ah, en retour sur les X-Men, il est bon comparé à ce qu'on a eu d'habitude avec Claremont à chaque fois qu'il revient.
Ouais, c'est un one shot pour vraiment les fans, quoi. C'est un truc.
Ouais,
je
pense que c'est ça.
Découvrir les X-Men, quoi.
Forever X-Men, je crois que ça s'appelait comme ça, était pas si mal que ça. Hein.
Oh, moi, ça m'a lassé. Hein.
Je crois que X-Men Forever.
Ouais, X-Men Forever, voilà. Bah, je suis pas allé au bout. Certes, ouais, mais je m'y remets très bien de ces jours, par contre, parce qu'il y avait quand même quelques idées intéressantes.
Dire qu'il est exclusif à Marvel, il l'utilise pas énormément quand même, ce Claremontin.
Pas du tout même, mais c'est peut-être
ça
pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal honnêtement, parce que je pense qu'aujourd'hui il n'a plus le style. Hey. Autant certains ont pu se réadapter et font des choses intéressantes, même en ayant commencé dans les années 70. Autant lui, j'ai du mal. Quoi.
Steve, imagine Chris Claremont d'un seul coup qui est plus exclusif Marvel et qui te refait la franchise Green Lantern chez DC.
Oh fuck!
Voilà, la vision de l'art d'Apocalypse.
Ah, c'est Onslaught et Zéro Tolérance mélangés ensemble. Quelle horreur! Donc, du coup, je suis un petit peu partagé, j'ai envie de dire un check it plus pour les gros fans des X-Men qui les suivent depuis des années et qui ont envie d'un petit côté de nostalgie. Pour les autres, les gens plus récents, hein, comme Flo l'a dit, un pass. Je pense que ça ne vous intéressera pas, tout simplement.
Ouais. Moi, je dirais un peu comme toi, mais moi, je partirais plus pour un check it. Il faut vraiment se faire son avis, je pense. Et quitte à le feuilleter en magasin pour voir et puis se faire son avis.
On va passer à la suite, c'est le Cataclysm Ultimate Spider-Man numéro 1, Bruno, premier tie-in de ce Cataclysm.
Ouais, tout à fait, et c'est écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Dave Marquez. Donc, petite mini-série sur Ultimate Spider-Man concernant Cataclysm. Alors, un numéro, je vais aller tout de suite au fond des choses, c'est assez dispensable. C'est un bail pour les gens qui suivent Ultimate Spider-Man, parce qu'on a l'impression, c'est vraiment un épisode Ultimate Spider-Man, mais la partie Cataclysm, elle n'arrive vraiment que dans la dernière page. Ça c'est un petit peu l'arnaque.
Hunger plus Cataclysm 0.1 all over again.
Voilà, donc j'étais vraiment déçu parce que c'est pas mal écrit. Enfin, c'est vraiment du Bendis classique avec du dialogue partout. Là, il y a une scène avec les Ultimates. Ça dure 3 plombes. Bon, c'est rigolo, ça fait sourire, mais alors franchement, c'est autour de la table, quoi, comme dans Avengers, c'est pareil, quoi. Et voilà, mais c'est surtout on revient sur les persos d'Ultimate Spider-Man, Cloak and Dagger et compagnie. Et voilà, et Cataclysme, ça débarque. Dernière page, et donc peut-être le deuxième sera plus intéressant, mais là, voilà. Pour moi, c'est vraiment juste un petit check-it pour les gens qui veulent découvrir Cataclysme. Et par contre, oui, si vous êtes un lecteur d'Ultimate Spider-Man, c'est absolument à posséder, puisque c'est vraiment la suite du numéro précédent, en fait.
Rappelons que c'est une mini en 3 hein, qui est tie-in.
Ouais,
hein.
Tout à fait.
Une mini tie-in à un event. Bon, classique, quoi, j'ai envie de dire.
Classique. Mais c'est très beau, hein. Franchement, Dave Marquez, moi j'adore son style et c'est vraiment très joli.
Très bien, on va continuer avec du Spider-Man une fois de plus. Superior Foes of Spider-Man numéro 5 est sorti, Valentin.
Oui, donc écrit par Nick Spencer et Steve Lieber et dessiné par Rachel Rosenberg. Donc on suit les 4 Superior 6 restants, Boomerang, The Beetle, Overdrive et Speed Demon. Et donc on les voit qui ont essayé d'aller dans le repère du hibou pour essayer de récupérer quelque chose que Beaumont cherche depuis les différents épisodes. Donc je vais faire très vite, c'est un très bon épisode rempli d'humour, les dessins sont juste géniaux. C'est vraiment la série très fraîche de Marvel en ce moment avec Hawkeye, donc c'est mon coup de cœur de la semaine et foncez-y parce que c'est juste énorme.
Ah oui, quand tu dis qu'Express, c'est Express.
ce qui est étonnant, c'est que c'est Rachel Rosenberg qui dessine et Steve Lieber, cette fois, est en co-scénariste avec Nick Spencer. Non, c'est Steve Lieber qui dessine. Donc c'est un peu étrange. Bah, comme c'est tapé. T'as ressenti la différence au niveau écriture par rapport aux anciens ça,
pas tellement. Ça suit l'histoire. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a toujours le même humour. Donc non, c'est plus ou moins la même chose.
D'accord. Si ça reste aussi bien.
Après tout, c'est clair. On va continuer. On va passer maintenant aux X-Men du présent, façon de parler, avec le All New X-Men numéro 18, Mister Nebunny et les retombées de Battle of the Atom.
Ouais, quelle retombée extraordinaire. Alors, Brian Michael Bendis est au scénario, Stuart Timonen est au dessin, et Wade Von Krow-Badger est à l'ancrage. Eh bien, je pensais ne pas forcément lire la suite, et finalement, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait cette semaine chez Marvel, alors du coup, je suis allé voir ce qui se passait là-dedans. Et effectivement, j'avais pas saisi au fait la situation en plus à la fin de Battle of the Atom, preuve que je m'y intéressais vachement. Donc au fait, les X-Men du passé ont rejoint complètement, enfin toute l'équipe a rejoint donc l'équipe de Cyclope, donc les Uncanny X-Men. Là c'est un épisode entre guillemets où ils s'installent ensemble, ils font connaissance avec les jeunes recrues de Cyclope, ils prennent leur nouvelle marque dans leur nouvelle base quoi de on voit surtout au fait ce qui se passe avec Kitty Pryde et les retombées de sa décision donc de partir aussi des X-Men. Elle refait connaissance avec Iliana, par exemple, etc., etc. Enfin, il se passe pas mal de petits trucs comme ça, mais on peut pas dire que le scénario avance énormément. Et puis surtout, on voit que Bendis, il veut absolument écrire Kitty Pryde, il veut absolument écrire Jean Grey, mais en tout cas, Kitty Pryde, je trouve qu'il l'écrit super mal.
Elle est out of character.
Mais oui, totalement, totalement. Je comprends pas pourquoi, au fait, il insiste tant sur ce personnage. Alors que c'est peut-être le personnage actuel qui l'écrit le plus mal. Donc il y a un problème, quoi. Il y a vraiment un souci là-dessus. Alors on voit aussi, oui, c'est dans cet épisode que les All New X-Men acquièrent leurs nouveaux costumes aussi. Ces fameux costumes qui font penser aux costumes qu'avait X-Factor au tout début des années 90. Fin des années 80.
C'est costumes que l'on a bien commenté dans un comics, dans un Weekly News, pardon.
Exactement, oui.
Et on avait tous dit ce qu'on ressentait, je vais vous le résumer.
Voilà. Bah ouais, non mais c'est ça, enfin...
C'est un bruit de vomi, hein, pour ceux qui n'ont pas compris.
En fait là ils sont quand même mieux, cela dit, dessinés par Stuart Timonen, que sur l'image preview qu'on avait pu voir, où c'était vraiment pas ça. Là, c'est moins choquant, D'ailleurs, je me demande s'il les a pas un peu modifiés par rapport à l'image qu'on avait vue.
Faudra que je vérifie. Par rapport au preview, ça m'étonnerait.
Je sais pas, mais ça me choque moins là si tu veux. En tout cas dessiné par Stuart Timonen, ce qui prouve qu'il est toujours très bon. D'ailleurs, j'ai pas parlé des dessins. C'est vraiment l'homme de la situation. Franchement, s'il était pas sur le titre, s'il change de dessinateur, ce serait encore perdre.
Je t'avouerai que j'aimerais bien quand même voir Mark Bagley arriver sur les X-Men.
Ah, sur All New X-Men encore.
Ah ouais. Franchement, j'irais au moins acheter un numéro s'il y avait du Mark Bagley quoi.
Ouais. Moi j'aime bien, enfin j'étais pas du tout fan d'Imonen, et justement ça m'a totalement réconcilié avec lui.
Je ne nie pas Imonen, mais dans le cas où, comme tu disais, s'il partait de la série, j'aimerais voir arriver Mark Bagley quoi. Surtout vu que de toute façon Spider-Man il n'y en a plus pour longtemps. Spider-Man.
Ouais.
Ultimate tout court en fait.
Oui, bien sûr, non mais
Ultimate Cataclysm.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça reste sympa, mais franchement, je sais pas où il va du tout là à la fin de l'épisode. J'ai pas trop capté ce qu'ils vont faire à présent. Voilà, j'attends de voir la suite. J'aimerais bien qu'il lâche un petit peu le personnage de Kitty, mais c'est mal parti. Voilà.
Je suis complètement d'accord avec toi, Benny. On voit que Bendis veut écrire Kitty Pryde. Il veut écrire les jeunes X-Men. Et il s'en fiche de casser ce qu'avait fait Jason Aaron avec le couple Kitty Bobby. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment, je veux écrire Kitty Pryde et merde aux autres, quoi. Ouais, et c'est ça qui m'embête un peu. Après, le numéro en lui-même, il est pas mauvais. Les dessins sont très bons, d'Immonen. Il y a quelques petites pointes d'humour qui sont sympas, mais ça m'énerve qu'il s'accapare le personnage de Kitty comme ça. Mmh.
Mais il l'avait déjà fait dans Ultimate Spider-Man, il avait déjà fait de Kitty Pryde carrément la copine de Peter Parker, donc preuve qu'il veut absolument écrire le personnage et lui donner de l'importance.
Le problème c'est que là, dans l'univers Ultimate, c'est une gamine, quoi.
Ouais, voilà. Non, mais autant là c'était plutôt sympa. Là, elle est une adulte. Voilà, exactement. Puis c'est la Kitty Pryde qu'on connaît dans l'univers Ultimate, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, à la rigueur, hein, je m'en fous. Mais là c'est la Kitty Pryde qu'on connaît, et il la change radicalement. Elle réagit d'une manière totalement absurde.
Comme je vous dis, c'est Bendis, hein, il arrive sur la franchise et il fait de la franchise ce qu'il a envie, et personne n'ose rien lui dire parce que c'est Bendis. Donc s'il a envie de chier sur toutes les 50 ans, les 50 dernières années de continuité, personne ne lui dira rien.
Moi, je trouve qu'il y a de bonnes idées, malheureusement, enfin dans son titre aussi, ou plutôt heureusement, mais il les exploite pas suffisamment au détriment de personnages, quelques personnages qu'il veut écrire et qui ne tient pas du tout. Et dernier problème aussi, comment va-t-on faire maintenant pour différencier le titre All New X-Men de Uncanny X-Men, sachant que les deux équipes sont ensemble?
Moi, je pense que ça va être All New X-Men, ça va vraiment se centrer sur Illyana, Kitty et les X-Men du passé. Mais Kenny X-Men vraiment sur l'équipe de Cyclope avec les nouveaux mutants, quoi.
Ouais, les jeunes d'un côté et les plus anciens de l'autre.
Et je rejoins de ce que vous disiez, surtout qu'avec l'arrêt de Wolverine et NZ X-Men, Bendis, je pense, va avoir le champ libre du coup pour faire ce qu'il veut sur la franchise.
Mais oui, il a récupéré le personnage d'Emma Jason Aaron, il lui a dit écoute, t'as ton joujou, maintenant t'as Nightcrawler, t'es content, donc voilà, je récupère Kitty.
Ouais, c'est ça, c'est un truc qui m'énerve.
Et donc, je mettrais un check-it à cet épisode.
Moi, un check-it moins.
Eh bien, on va terminer avec du X-Men encore une fois, avec la série Marvel Knights X-Men numéro 1. Je vais juste ajouter une petite précision, j'ai vérifié les crédits du Superior Force of Spider-Man. Effectivement, c'est bien Steve Lieber qui dessine et Rachel Rosenberg est à la couleur, en fait. Voilà. Petite erreur corrigée tout de suite. Marvel Knights X-Men, mini-série en 5, écrite et dessinée par Bram Revell et colorisée par Christian Peter. On va suivre des X-Men, on va dire, plus ou moins classiques, hein, ceux que l'on pouvait voir dans la série Wolverine and the X-Men, notamment Wolverine, Rachel Gray, pardon, et Kitty Pryde. Partir dans une bourgade totalement au fin fond, et Rogue, pardon, j'avais oublié Rogue, partir dans une bourgade complètement au fin fond des États-Unis, le truc où on n'aime pas trop les étrangers, puisque Rachel a eu un flash avec des mutants qui sont pourchassés et exterminés, et ça, Wolverine ne veut pas voir ce genre de choses arriver, donc il est parti pour aller castagner du bouseux, tout simplement. Sur place, ils vont trouver une des autres mutantes, puisqu'il y a trois mutants là-bas, ce qui leur paraît un petit peu aberrant pour une toute petite ville qui n'existe même pas sur les cartes, vraiment. Et c'est là qu'on va avoir une gamine qui est en lien avec des gens pas très très fréquentables dans cette ville. Il y a pas mal de mystères qui planent, on a du mal à définir exactement où ça va. Et cette gamine a le pouvoir de contrôler les gens par la pensée, de leur faire faire ce qu'elle veut. Les X-Men vont quand même réussir à l'amadouer et partir en quête de ces jeunes disparus, ces jeunes autres mutants disparus, et arriver dans une maison qui a l'air sacrément bien hantée, de façon assez étrange. C'est pas mal, le dessin de Brendan Graham est vraiment particulier, mais correspond tout à fait à cette ambiance sombre. Brendan Graham, on avait pu le voir notamment chez Oni Press sur Guerrillas, une série où on voyait des gorilles faire la guerre du Vietnam. Une série qui était assez étrange, mais qui avait déjà un ton vraiment particulier. Et on ressent bien ce ton un petit peu poisse, un petit peu crasseux dans cette série. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai envie de donner un check-it, moi, pour ce premier épisode. À voir si la suite continue bien, et ce serait une bonne mini-série X-Men, un petit peu en marge de la continuité, tout en y faisant quelques références, puisqu'on voit que c'est quand même l'équipe de Wolverine and the X-Men que l'on a. Mais voilà, bon petit produit, j'ai trouvé ça assez sympa, pas une lecture incontournable, mais assez sympa. C'est tout pour notre partie Marvel. On va maintenant passer à notre partie indé et on va démarrer avec la grosse sortie indé de la semaine. C'est Unity numéro 1, Flo. C'est chez Valiant.
Et oui, c'est écrit par Matt Kint, le prolifique, et superbement dessiné par Doug Braithwaite, pardon, et colorisé par Brian Reber. Brian Reber qui doit être le coloriste exclusif de Valiant, puisqu'à mon avis, il fait toutes les séries.
Doug Braithwaite, c'est tellement beau. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de lire celui-ci.
C'est vraiment du tout bon. C'est très solide visuellement. Pour l'histoire, alors, pour ceux qui suivent Valiant, ils savent où on en est. Le porteur de l'armure Exo-Manowar, donc Arik, ce Das qui est revenu dans le présent, c'est accaparé la Roumanie, tout simplement, son pays d'origine. Parce que il a réussi à libérer son peuple d'une flotte alien et il revient avec son peuple dans les vaisseaux aliens et il va se poser en Roumanie et il dit écoutez nous et notre peuple on s'est fait kidnapper par des aliens et maintenant on reprend ce qui nous est dû.
C'est comme ça qu'il faut faire quand on a des pouvoirs, c'est tout.
C'est un barbare.
Voilà, le personnage d'Arik est un personnage très ambigu. Hein. C'est à la fois un héros et un anti-héros. Évidemment, dans ce numéro, en gros, c'est des personnages de l'univers Valiant qui vont s'unir, Unity, contre Arik, Exo-Manowar, pour éviter surtout que ce barbare-là provoque une troisième guerre mondiale avec ses conneries. Parce qu'il y a notamment les Russes qui sont pas très très contents et qui s'apprêtent quasiment à balancer des bombes nucléaires et éventuellement du coup à déclencher une guerre mondiale. Et ça, Toyo Harada, le patron de la Harbinger Foundation que vous connaissez dans la série Harbinger, il veut pas que ça arrive parce que c'est plutôt un gentil. Enfin, je dis plutôt parce que c'est très 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 ambigu également chez Valiant.
Mais c'est ça, tout est en nuance de gris chez Valiant et c'est ça qui est très bon.
Voilà, et c'est ça qui est très 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 intéressant chez eux. Et donc, c'est simple, il va s'allier à Eternal Warrior et à Ninja, qui va engager Ninja aussi. Pour un petit peu avoir une stratégie pour attaquer le vaisseau de Exo-Manowar et le mettre à terre. Évidemment, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Donc le scénario, voilà, c'est très simple, hein, c'est vraiment ça. On a la menace, on va essayer de la contrer. Après, c'est très bien écrit, je trouve. C'est le meilleur Matt Kint que je lis là en ce moment parce qu'il cachetonne un petit peu partout. Et très très bon point. Il tient vraiment bien les personnages pour un nouvel arrivant dans l'univers Valiant, je trouve. Arik, il l'a très bien. Ninjak est très fun. Il était apparu dans Exo-Manowar un petit peu plus tôt. Robert Venditti l'avait bien et là, il l'a vraiment très bien. Il a une place assez centrale dans le numéro. Et Toyo Harada aussi, fidèle à lui-même, hein, un homme très droit et très strict. C'est drôle, il y a des scènes mais géniales. La première vague envoyée par Toyo Harada pour attaquer Exo-Manowar, bon, on va pas raconter la scène, mais c'est extrêmement drôle.
C'est excellent.
C'est vraiment excellent. Quoi. Moi, j'ai jubilé quoi en voyant cette scène. Donc non, très très bon. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que le pitch est assez simple et vraiment profiter, c'est absolument génial.
Juste une question pour toi, est-ce qu'on retrouve des personnages issus de Bloodshot et d'autres séries comme Harker and Armstrong ou pas du tout du coup?
Non, peu, en tout cas pas pour le moment. Ça se centre vraiment sur la Harbinger Foundation, Ninjak et le Eternal Warrior.
Ok, d'accord, donc c'est titres.
S'il y a Eternal Warrior, on va peut-être retrouver Armstrong, il y a peut-être Armstrong qui va débarquer, son frère, hein. Un moment, je sais pas.
Je te rejoins dans ce que tu disais, Flo, parce que moi, c'est le premier numéro Valiant que j'ai pris. Je me suis dit, un crossover...
Comment c'est pas bien.
Je sais. Tapez-moi après, s'il vous plaît, mais...
S'il vous plaît. Il nous demande qu'on le tape si ça nous plaît, donc...
Il est bizarre, ce Valentin.
Mais ouais, du coup, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire sans connaître les personnages de Exo-Manowar, etc., etc. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ce numéro. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite du crossover. Ouais, ça m'a donné envie de découvrir du coup les autres branches de Valiant.
Ah bah oui, c'est la grande force de ce numéro, c'est que c'est accessible aussi à tout le monde, alors que ça part d'un statu quo actuel, du statu quo actuel, ouais, de l'univers Valiant.
Très bon point d'entrée. Il y a des crowbars au début qui expliquent un peu la situation.
Donc, ouais, il y a un petit schéma qui sont vraiment fait nickel.
voilà, c'est très simple, mais en même temps, ça pose bien les bases. Et bah, je vous rejoins hein, tous les deux. Moi, j'ai adoré. C'est une très très bonne lecture. Il y a vraiment des bases solides pour cet event. Le terme Unity, on va voir ce que ça va donner par la suite, parce qu'au départ, ce qui était prévu, c'est pas vraiment ce qui oui. marche, on va dire. Mais en tout cas, excellent. Puis alors, vraiment, voilà, la partie graphique est terrible. Donc.
Et juste sublime.
Donc moi je le conseille à tout le monde, et même à ceux qui n'ont pas commencé Valiant, effectivement on peut commencer très facilement avec Unity.
Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers Valiant, il y a toujours notre bibliothèque dans le Comic City du mois précédent, celui pour le mois de septembre, mais aussi qu'il existe des vidéos qu'ont développé Valiant qui reviennent sur l'ensemble des personnages, qui vous donnent en 3 minutes ce qu'il faut pour pouvoir comprendre Unity, développé à cet effet justement, puisqu'ils misent énormément sur ce nouvel event au sein de leur compagnie.
Et si vous voulez en savoir vraiment plus sur les personnages pour le moment qui apparaissent dans Unity, lisez Exo Manowar, il y a 2-3 TP qui sont sortis déjà, et Harbinger, voilà, c'est vraiment important de les lire aussi, parce qu'on a vraiment la psychologie des personnages et on comprend vraiment la profondeur de ces deux personnages très, très complexes. Donc moi c'est mon coup de cœur, tout simplement.
Ah, je n'avais pas compris, dis donc.
Voilà.
Moi ça...
Un gros bail aussi.
C'est un gros bail.
Ouh là là, pas tous les deux en même temps, par pitié. Valentin, donc.
Donc moi, c'est un gros bail et on peut rentrer très facilement dedans, comme j'en suis la preuve vivante, du coup.
Et Bruno ?
Un bail aussi.
Et toi aussi, tu veux rentrer dedans ?
Peut-être pas dans Unity, mais
dans Valentin.
Mais dans Valentin,
peut-être,
voilà.
Peut-être dans LiveWire.
Okay, c'est bon, ça c'est fait, la vanne
bravo, est faite. Bravo.
C'est bon. On va passer à du tranchage de tête, du zombie qui mord. C'est Walking Dead numéro 116, Mr. Onebunny.
Alors, deuxième partie de All Out War par Robert Kirkman et Charlie Adlard. Que dire si ce n'est que c'est vraiment l'épisode 100% action qui se lit... On le dévore en 5 minutes et voilà, c'est comme d'habitude, la pression monte crescendo, tu te dis oh la vache, est-ce qu'il va vraiment se passer ça? À chaque fois que tu tournes une page, tu te dis oh mon dieu, non, ils l'ont fait, qu'est-ce que va faire Negan, etc. Parce que oui, c'est la bataille, donc All Out War, qu'est-ce que c'est? Rappelons-le, c'est la guerre entre les survivants du côté de Rick et les survivants donc qui sont avec Negan, ce gros enfoiré, ce gros méchant qu'on voit maintenant depuis une trentaine d'épisodes peut-être maintenant, à force.
Non, pas encore, je dirais une vingtaine. Moi.
Allez, une vingtaine.
Il est apparu juste avant le numéro 100, pas longtemps avant le numéro 100.
Ouais,
je me demande du 94, si... quelque chose comme ça.
Ouais, bon, on est au 116.
Oui, bah ça fait 22, quoi.
Ouais. Alors en tout cas, il est là, il est vraiment dans son rôle de gros enfoiré, et puis on n'a qu'une envie, c'est qu'il se fasse avoir, et toujours il arrive à se tirer parfois de certaines situations périlleuses. Enfin bon, bref, c'est très très bon. Voilà, c'est des montagnes russes et on adore ça. Et franchement, bah encore une fois, il y a pas à dire. Hein, c'est encore mon coup de cœur cette semaine. Voilà, c'est la lecture à travers laquelle je ne décroche pas une seconde et j'adore quoi, du début à la fin. Donc un gros
sur cet arc, normalement, je crois, vu qu'il sort toutes les deux semaines, enfin tous les 15 jours, normalement Charlie Adlard doit être ancré. Est-ce qu'on a un changement de style qui se voit beaucoup?
Alors, je trouve pas que ça se voit du tout, d'ailleurs.
Alors, même, à moins que l'ancrage n'ait pas encore commencé, peut-être que ces deux premiers épisodes ne sont faits que par lui, mais je sais qu'on lui avait adjoint les services d'un ancreur pour que ça puisse sortir à l'heure, parce qu'effectivement, deux épisodes par mois, il peut pas produire deux épisodes par mois au niveau dessin, ce qui est tout à fait logique, avec cette qualité-là en tout cas.
Ouais, j'essaye de voir si dans les crédits, alors est-ce qu'on a Stefano Godiano effectivement à l'ancrage? Non, moi je vois pas de différence, donc tant mieux. Par contre, la couverture, en tout cas la couverture régulière, elle est super moche. Hein. C'est vraiment la couverture la plus moche de tout Walking Dead de tous les temps, quoi. C'est, je sais pas ce que c'est que cette couverture. On a l'impression, enfin, c'est moche. Voilà. Et par contre, j'ai comme un doute là. Ça fait pas deux semaines que le 115 était sorti.
Et si. Ah bon ? Et si. C'est sorti il y a 15 jours.
Ah ouais.
Sachant qu'il y a le TP du 19 qui est sorti cette semaine aussi pour les gens qui veulent enchaîner avec All Out War, du coup.
Très bonne initiative, ça, encore une fois. Ouais. Donc un bail, j'imagine.
Oui, bien sûr, ouais. Méga bail.
Et ton coup de cœur de la semaine.
Exactement.
Très vite, on va rester sur du zombie qui se lie encore plus vite que Walking Dead, c'est Shaolin Cowboy numéro 2. On avait parlé du premier avec Bruno il y a de ça un mois, quand était ressortie cette série, c'est chez Dark Horse. Scénarisé et dessiné par Jeff Darrow avec des couleurs de Dave Stewart. Ça va être très rapide. Il y a rien à dire. C'est-à-dire que c'est un numéro que du dessin. Il n'y a absolument aucune bulle, à part juste un bruit de tronçonneuse en haut, qui fait bzzz. Et on va voir ce Shaolin Cowboy avec sa super arme, cette espèce de bâton au bout duquel est accroché de chaque côté une tronçonneuse, découpé du zombie sur que des doubles splash pages avec une case en haut, une case en bas. Voilà, tout simplement. Ça va être 22 pages comme ça. Alors, vraiment à réserver aux fans du style de Jeff Darrow, parce que c'est franchement très 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 beau. En revanche, ça se lit très très vite. Déjà le premier se lisait relativement vite. J'espère sincèrement qu'il va y avoir du texte au bout d'un moment, qu'il va se passer au moins quelque chose au niveau du scénario, parce que là c'est juste un mec qui découpe des zombies pendant 22 pages.
Et au début, il n'y avait pas encore une page avec trois colonnes de texte en police 3.
Non, cette fois-ci, la première page, c'est quasiment la même que la cover, avec le mec qui saute avec sa tronçonneuse, qui saute en plein milieu des zombies, et après, c'est de la découpe pendant 22 pages. C'est vraiment de la boucherie pure et dure.
Ça doit être beau.
Ah, c'est super beau. Franchement, c'est un véritable bijou au niveau visuel. En revanche, est-ce que ça suffit pour payer 4$?
C'est une expérience, quoi.
C'est une expérience, voilà, on connaît un peu le style de Shaolin Cowboy, donc on sait un peu à quoi s'attendre, et donc on est, enfin en tout cas de mon côté, je suis beaucoup plus relax avec ça, et ça me dérange moins, mais ça me dérange quand même, parce que voilà, 3 minutes pour faire le tour de l'épisode, si on va vite, bon après on reprend et on regarde bien les pages, mais c'est quand même un petit peu cher payé pour 3 minutes, quoi. Bref, je vais mettre qu'un check-it. On va passer à toi, Bruno, qui va nous parler d'une nouvelle série qui s'appelle Umbral numéro 1. C'est chez Vertigo.
Oui. Et c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est chez Image.
C'est chez Image, oui. Pourquoi j'ai dit Vertigo?
C'est scénarisé par Anthony Johnston et dessiné par Christopher Mitten. C'est de la pure fantasy. C'est un tout nouvel univers, un petit peu magique, mélange de cap et d'épée, de magiciens, un petit peu comme Game of Thrones, on va dire.
C'est un univers de jeu de rôle totalement, moi je trouve.
De jeu de rôle totalement, tout à fait. D'ailleurs, un gros point positif, moi tout de suite, moi je kiffe quand il y a un comics qui propose ça. On a une carte avec plein d'endroits qui sont décrits et tout. Alors tu te dis, il y a du potentiel, ils vont développer une mythologie de ouf.
D'où le côté jeu de rôle encore plus, quoi.
Exactement. Et vraiment, ça se lit avec plaisir. On va suivre, en fait, le prince de ce royaume, en fait, qui s'est allié l'amitié d'une jeune voleuse, en fait, qui... En fait, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Bon, j'ai oublié son nom, mais elle est très sympathique. C'est une jeune voleuse, un peu magicienne. Lui, c'est un prince qui est un petit peu tombé amoureux de cette fille et qui en a marre d'être le petit prince qui doit faire absolument comme le roi et tout. Et donc, il fait un petit peu des conneries.
Il en a marre des moutons au bout d'un moment, le petit prince.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Je suis désolé, c'était
trop. Il fait un petit peu des conneries. Et puis, donc, il l'a fait entrer dans le château pour lui montrer des artefacts magiques qui sont cachés dans le coffre-fort du château. Et ils font ça le jour, en fait, d'une éclipse totale, quelque chose qui fait très très peur au roi et au peuple. Mais ils se disent c'est le bon moment pour aller s'infiltrer dans le château et aller faire des conneries. Sauf que c'est aussi le très bon moment pour de très méchantes créatures pour venir capturer des artefacts et magiques et ouvrir un portail qui va un peu créer la zizanie dans l'univers, enfin dans le royaume. Là, il y a vraiment tout qui part en couille en un seul épisode. L'héroïne est vraiment bien bien dépeinte. C'est vraiment très riche, c'est bien écrit, c'est très très beau. Et voilà, il y a du potentiel pour faire une nouvelle série fantasy vraiment cool. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est mon coup de cœur cette semaine.
Moi j'ai juste commencé à lire, j'ai pas eu le temps de le terminer avant l'émission. Je suis d'accord avec toi, le début en tout cas me paraissait très intéressant, mais je donnerai pas une note finale puisque je n'ai pas lu le truc en entier. En revanche, je suis vachement moins séduit par les dessins. J'arrive pas à rentrer du tout dans l'univers graphique. C'est notamment les visages me plaisent pas du tout.
Mais moi je les trouve plutôt bien, enfin plutôt détaillés, on voit bien les expressions des persos, mais
Ah oui, oui, non, mais c'est que, enfin, ça rentre pas dans mes goûts, ce style de dessin-là ne rentre pas dans mes goûts, vraiment. Mais le fond assez vide aussi.
Ouais, peut-être. Mais la direction artistique, je la trouve bonne avec le design des créatures, des méchants,
après,
des armes.
Après, c'est super cohérent. C'est juste que moi, je suis pas vraiment fan des dessins, quoi. Mais...
Et puis, c'est un numéro petit peu plus long que d'habitude. Il fait une trentaine de pages, pas beaucoup de pubs aussi. Et puis, il est à 3 euros. Donc, franchement, c'est à tester. En tout cas, pour les fans de fantasy, je pense que vous pourrez être séduits.
Donc, ton coup de cœur de la semaine, Bruno?
Tout à fait, et un gros bail.
On va terminer notre partie indé avec Flo qui va nous parler du deuxième épisode de Coffin Hill qui lui est chez Vertigo, d'où ma confusion de tout à l'heure.
Tout à fait, écrit par Kathleen Kittredge et dessiné par Inaki Miranda. J'avais beaucoup aimé, et vous aussi également, le numéro 1, et je voulais voir si Kathleen Kittredge validait, et effectivement je valide, très bonne série. Il se passe plein de choses dans ce numéro. À la fin du précédent, Eve Coffin donc revenait sur les traces de sa famille et dans la maison familiale qui est abandonnée aujourd'hui pour un petit peu enquêter sur la disparition de deux adolescents au même endroit où elle faisait ses petits rites sataniques avec ses potes quand elle était adolescente. On en apprend plus sur la famille Coffin. On apprend que toutes les nanas étaient des sorcières, donc elle en est une. Ils ont l'air assez fucked up hein, dans cette famille. Ça, vraiment, vraiment. Encore plus que ce qu'on voit dans le premier numéro. Elle rencontre donc à Coffin Hill un ancien ami d'adolescence qui maintenant est flic. Et donc ils vont un petit peu enquêter ensemble. On alterne toujours comme dans le premier numéro des phases donc dans le présent et des phases de flashback très bien gérées dans le passé, dans son adolescence, où on en voit un petit peu plus sur cette séance sataniste qui a mal tourné dans les bois. Et on voit aussi un petit peu l'étendue, enfin un aperçu des pouvoirs de Eve Coffin. On savait pas trop si elle avait des pouvoirs ou quoi, mais a priori c'est une petite sorcière. Et c'est toujours très sombre avec un mélange de mystère, de fantastique, un peu d'horreur, un ton un petit peu revival, si vous voyez. Mm-hmm. Le côté ville de province, voilà, enquête là-dedans. Les dessins sont toujours superbes, vraiment, c'est très 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 beau. C'est un peu pour reparler de revival, c'est un peu un Mike Norton, mais en moins fade, beaucoup plus fin, avec un petit peu plus de folie dans le dessin et plus de dynamisme. Et donc c'est vraiment top. Je conseille vivement cette série. Le deuxième numéro confirme mes bonnes impressions. Donc c'est un très gros bail pour moi.
Et c'est une très bonne chose pour Vertigo d'avoir des séries de qualité, surtout en ce moment où les séries s'arrêtent peu à peu, quoi.
Là, vraiment très bien. J'avais pas parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines de Interkind numéro 2 qui était aussi très bon d'ailleurs.
Eh bien, de Vertigo, on va passer à DC et on va commencer avec Mr. Honey Bunny. Pardon, je zappe des syllabes. J'ai envie de t'appeler Mr. Honey Bunny. J'arrive même pas à le refaire. J'arrive même pas à le refaire deux fois de suite. Qui va nous parler du Batman numéro 25.
Alors, Scott Snyder, Greg Capullo, Danny Mickey, voilà pour l'équipe créative. Et on est en plein Zero Year, toujours. Alors, c'est très beau déjà graphiquement. Hein, franchement, Greg Capullo ne démérite pas. Alors par contre, le scénario, en fait, j'ai mis, on va dire, jusqu'à la moitié pour vraiment rentrer dedans, parce que au fait, Snyder nous raconte des choses que sur Batman j'ai déjà vues ou lues. Par exemple, la première scène, il repompe carrément une scène dans le dernier Dark Knight Rises, quoi. Le gag c'est le même, la scène c'est la même, quoi. Bon. Simplement, c'est bien écrit. Enfin voilà, c'est Scott Snyder, quoi. Ensuite, on a au fait une intrigue qui nous replace l'un des ennemis bien connus de Batman. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. Pareil, j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu cette histoire-là auparavant. Et puis, arrivé au milieu du numéro, il y a cette scène qui m'a bien fait marrer avec le commissaire Gordon. Au fait, une rencontre entre Bruce Wayne et le commissaire Gordon qui est assez drôle. Je vais pas décrire ce qui se passe exactement parce que justement, c'est un petit peu la surprise de ce numéro.
Bah, il trouve Bruce dans une position compromettante, on va dire.
Ouais.
pour juste teaser un petit peu.
Sur un cheval en bois.
Dis donc, tes positions compromettantes sont assez étranges, Bruno.
T'as pas lu le même numéro d'ailleurs que nous, parce qu'il n'y a pas de cheval en bois.
On en reparlera aux antennes hein, de tes penchants pour les chevaux de bois.
N'importe quoi.
Je t'en prie, Benny, continue avant que ça dérape de trop.
Oui, et ben donc et puis il y a aussi l'apparition d'un autre ennemi au fait, qui n'est pas l'ennemi annoncé initialement, qui est un ennemi très classique de Batman, pas forcément aussi connu que le Joker, le Pingouin, etc. Mais qui est là, bien flippant, bien fait. Enfin, ça m'a
surpris
de voir.
Est-il encore classique sous cette nouvelle forme?
Ben en tout cas, oui, ben en tout cas, c'est un personnage revisité.
Oui, voilà, c'est revisité. Qu'est-ce que c'est flippant?
Et
oui,
wow.
Oui, je confirme.
Et du coup, ça m'a bien intrigué pour la suite. Au fait, j'étais pas spécialement intéressé par ce qui se passait. Et puis d'un seul coup, avec ce super vilain et cette intrigue, et puis cette scène quand même sympathique au milieu de l'épisode, bah d'un seul coup, je suis rentré dedans et j'ai envie à nouveau de suivre ça, quoi. Donc le pari est plutôt réussi. Et puis il y a un backup. Alors un backup avec Harper.
Oh, mon dieu, quelle horreur.
Bon voilà, inintéressant au possible. Elle m'est même pas plus sympathique après avoir lu ça. Et bon, on n'apprend rien de spécial à part qu'apparemment elle pue de la gueule. Hein. C'est ce que dit son frère à la fin. Voilà. C'est même pas une blague. Hein, c'est voilà. Donc bon. Alors oui, bah les crédits, Scott Snyder, James Tynion IV, hein, toujours pour les backups, et Andy Clark est au dessin. Les dessins sont pas mal, hein, cela dit. Hein.
Voilà. Ouais, moi j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Comme toi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est très attentiste, je trouve, comme numéro. Et puis ça se débloque à passer la moitié, donc on a quand même la moitié du comic qui sert pas, enfin c'est pas qu'il sert pas à grand chose, mais où on reste un peu sur notre fin, on attend qu'il se passe quelque chose.
Et ouais.
Ça bouge enfin, et quand ça commence à bouger, bah c'est déjà la fin, malheureusement.
Ah oui, puis d'ailleurs précisons que ça commence et ça se termine sur quelque chose que je sais pas du tout ce que c'est, des gens dans un désert. Bah
ça c'est
des
très
soldats.
Mystérieux.
Oui, voilà.
C'est aussi ce que j'ai aimé dans ce numéro, c'est que c'est très dense. En fait ça prend son temps mais c'est assez dense, c'est un numéro assez exigeant en lecture, ouais. C'est vrai que ça prend son temps Zero Year, mais c'est toujours un vrai plaisir à lire parce que là surtout dans ce numéro il place d'autres intrigues, des trucs qui partent dans d'autres directions qu'on s'y attendait vraiment pas du tout, et surtout ces directions me plaisent, et ce personnage que personnellement je ne connaissais pas, il est très très cool. Surtout
flippant à l'extrême. Il est flippant à l'extrême.
Ah putain, c'est waouh.
Le choc.
C'est très très cool. Cette splash là.
Je rejoins ce que tu dis, Florent. C'est tout pareil. Je connaissais pas non plus le personnage et il m'a l'air d'être assez cool et j'ai hâte de voir la suite quoi.
La scène d'intro qui ferme aussi ce comic et scène à laquelle on comprend pas grand chose, m'a fait énormément penser à ce qu'il fait sur The Wake, avec des scènes comme ça un petit peu sorties de nulle part, on comprend pas vraiment le lien. Bon, ça va se décanter, j'imagine, dans les futurs numéros, mais.
C'est un teaser pour la prochaine phase de Zero Year, quoi. Comme sur The Wake, je pense, hein. Un procédé
comme le premier numéro de Zero Year aussi, avec.
Ça m'a fait penser à ça, tout de suite.
Ouais. Mais moi, j'ai pas eu le temps de le lire, mais par contre, la couverture déchire, un petit peu gaufrée et tout, ça. C'est vraiment un très bel objet de collection, en tout cas.
Oui, par contre, ça coûte 5$.
Ouais, ça, c'est le point négatif. Ça coûte 5$. Il y en a plus que d'habitude ou...
Il y a plus de pages de Capullo. Alors, il y a 26 pages, je crois, ou 24, je sais plus, de Capullo. Et 5 pages de backup. Donc, c'est
d'accord,
pas un numéro.
Plus une jolie couverture.
Voilà, plus une jolie couverture très épaisse. Mais bon, pour moi, ça mérite pas 1$ de plus. Voilà, ouais. Je trouvais ça un peu
abusé. C'est un peu exagéré.
Très vite, parlons de ce What's New in the New 52 qui nous resserre pour la troisième fois la même page en l'espace de 3 mois.
Moi, je la regarde plus, hein, perso.
Non, mais enfin voilà, je trouve que ça mérite d'être signalé puisque c'est exactement la même page qu'on a eu le mois dernier, qu'on a eu le mois d'avant. Voilà, c'est un petit peu désagréable d'avoir deux pages qui sont de la redite encore et encore et encore, sachant qu'on se tape dans tous les comics de la semaine. Très ouais. Désagréable. On passe à la suite avec un tie-in à Zero Year, c'est le Green Lantern Corps numéro 25. Alors là, on va être sacrément rapide. Déjà, première grosse déception, ce ne sont pas les retombées de Lights Out, mais un tie-in à Zero Year. Qu'est-ce que ça vient foutre dans Green Lantern Corps? Ça n'a rien à faire là. Scénarisé par, je retrouve les crédits, script de Van Jensen avec un coplot de Robert Venditti, comme d'habitude, et deux dessinateurs, Victor Druginiu, et Ivan Fernandez. Alors, on est à l'époque de Zero Year, c'est-à-dire 6 ans auparavant. On a John Stewart qui est un marine et qui va essayer d'évacuer les gens avant que cette grosse tempête qui menace Gotham débarque. Et ils vont tomber sur Anarchy, qui a décidé de prendre le contrôle de cette espèce d'énorme stade et de redonner le pouvoir au peuple, tout simplement. Arrêter ces espèces de fachos du gouvernement, c'est de la merde.
Ouais.
Et oui, et on voit voilà. En parallèle aussi son enfance bon. Avec sa mère qui lui raconte une histoire. Enfin bref.
Sur un peu la lutte pour les droits civiques et tout. Bon, ça essaie de s'enrober de considérations politiques. Ça le fait plutôt mal. Quoique les flashbacks sont bien écrits, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt pour vraiment mieux comprendre. On comprend peut-être légèrement mieux le personnage de John Stewart, mais c'est un peu hors
c'est
propos,
chiant.
Surtout le fait que ça soit à Gotham, Zero Year, c'est hors de propos, c'est chiant à lire, ça n'a aucun lien avec les Green Lanternes, il n'y a même pas un petit rappel pour me dire « Ah ouais, maintenant je suis un Green Lantern et c'est vachement cool. »
Ouais, à la rigueur, il y aurait eu...
Faut que tu aies jamais peur.
Ouais, il y a juste ça, mais voilà. Tu sais, ça aurait pu être bien que ce soit le numéro où il récupère son anneau ou un truc comme ça, enfin un truc un peu...
Bah oui, un vrai truc, un truc qui se passe un truc, quoi. Donc non,
mais
non,
alors
c'est
là, il se
passe
rien, c'est chiant, le seul truc qui pourrait être intéressant, c'est l'identité d'Anarchy. Mais voilà quoi. Mais
ce qui se passe, c'est qu'on apprend comment il a quitté les Marines. C'est ça, en fait.
Oui, voilà,
ouais, ouais.
Ça. Mais
ouais.
Bon, clairement, zappez-le.
Mais
zappez-le enfin,
totalement.
Si vous lisez la série,
aussi.
Ne le lisez pas. C'est pas la peine.
Par contre, c'est dessinateur plutôt bon. Moi, j'ai trouvé ça très joli, mais vraiment un scénario super chiant.
Ça passe très bien. Ouais, les dessins passent bien. Ouais, mais non. Enfin,
le
voilà.
Problème, c'est que servi par une histoire comme ça, moi, honnêtement, j'y fais même plus attention au dessin. J'ai juste une
non,
envie,
non.
C'est que ça s'arrête.
Non, je tournais les pages sans aucune envie.
Le problème, c'est encore une fois, comme on l'a déjà répété plusieurs fois chez Marvel, de vouloir essayer de faire des trucs sur des droits civiques, mais des trucs tellement bateaux, des trucs que tout le monde connaît, que tout le monde. Enfin voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, on a tous là. Non, pas tous, mais bon, on a à peu près la trentaine. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'essayer de nous apprendre, quoi. Alors peut-être pour gamins de 15 ans, c'est bien, mais.
C'est ce que j'allais dire. Pour moi, je le sais déjà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il est très passable et c'est dommage qu'on n'ait pas les retombées de l'Ice Out dans ce numéro, quoi.
Non, c'est absolument. Enfin, pour moi, c'est totalement indigeste, cette espèce de conscience pseudo-politique pour essayer de réveiller les gens. Non, mais faut arrêter, quoi. On n'est pas là pour lire ça. Faites un comic indé si vous voulez faire de la politique vraiment. Parce que pour les comics mainstream, vous aurez jamais la possibilité de faire un véritable comic politique. La boîte n'acceptera jamais, donc on aura forcément de la soupe. Moi, je trouve ça assez petit, personnellement. Mmh. On va quand même donner les notes. Passe.
Ouais, passe.
Je me suis rendu compte qu'on a oublié de donner les notes pour ce fameux Batman 25.
Moi,
ce sera un bail. Allez.
Ouais,
bail
très
aussi.
Bon bail. Tout à fait.
Bail aussi, ouais, pour moi.
On va repasser sur toi, Mister René Bunny, et je sais que tu aimes ça, avec le Superboy numéro 25, deuxième partie du crossover.
Oui, alors du coup, Superboy numéro 25, au scénario on retrouve Scott Lobdell, donc c'est la deuxième partie de, comment ça s'appelle, Krypton Returns, voilà, à chaque fois j'ai du mal, comme toi, je le confonds avec un autre crossover.
C'est quelque chose que vous n'aurez pas dans la version montée.
C'est vrai que c'est quelque chose que vous n'aurez pas. Scott Lobdell qui au fait assure le plot, et au fait il est aidé par Justin Jordan, Michael Alan Nielsen au dialogue. Et les dessins sont d'Ed Benes. Alors retrouver Ed Benes déjà c'est plutôt pas mal. Et surtout sa Power Girl, sa Super Girl justement qui est juste géniale je trouve. C'est très sympathique graphiquement. Lobdell, bah c'est bien qu'il délègue un peu et que et au fait il ne signe pas tous les dialogues de cet épisode parce que bah il est sur plein de trucs en même temps en ce moment. Donc ça souffre pas d'un épisode un petit peu bancal. On a vraiment un épisode solide. Et donc le pitch, très vite. Au fait, c'est compliqué. Elle a voulu sauver Krypton. Donc il est remonté plusieurs fois dans le temps pour essayer à chaque fois de sauver Krypton et à chaque fois ça a merdé. Donc ça a créé une espèce de gros embrouglio dans l'espace-temps, un petit peu à la All New X-Men. Et Superman, Superboy et Supergirl n'ont d'autre choix que d'aller à différentes époques pour empêcher justement de sauver, pour empêcher elle de sauver Krypton. C'est-à-dire qu'ils doivent, au contraire, détruire Krypton à contre-cœur. Voilà. Pour que les choses reprennent, au fait, un cours normal. Et on a une scène, par exemple, de Superman qui rencontre sa mère et qui commence à se fighter contre sa mère. Sa mère qui ne sait pas que c'est Superman, bien sûr. Y a plein de trucs super intéressants.
Oui, sa mère, sa vraie mère, hein, précisons pour ceux qui n'auraient pas compris.
Bien sûr, bien sûr, sa mère kryptonienne. Et Superboy, par exemple, lui fait face à Eradicator dans sa version New 52, qui n'est pas le Eradicator qu'on a connu dans les années 90.
Gros changement de look, là, hein.
Ouais, gros changement de look et on va dire même de fonction, hein, puisqu'il apparaît pas dans les mêmes circonstances du tout. Mais par contre, voilà, c'est vraiment très sympa et Supergirl fait face à une armée de clones. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a, c'est, enfin, ça fait appel à beaucoup de choses qu'a placé Lobdell dernièrement sur les titres Superboy et Superman et de bonnes choses. Franchement, il y a parfois de bonnes idées. Et c'est bien qu'il délègue, parce que franchement, c'est agréable à lire. Voilà, c'est pas lourd, c'est pas du Lobdell des années 90, très verbeux. C'est fluide, c'est une lecture vraiment sympa, ça fourmille de petites idées. Non, moi j'ai hâte de lire la suite de cet event, qui est vraiment très très bon. J'ai adoré les deux premières parties, en tout cas. Là, pour le moment, c'est du tout bon. Très
bonne surprise. Parties graphiques quand même, très vite. Que des doubles splash pages, quasiment, sur tout l'épisode, à part la première et la dernière page.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais bon. Ça n'empêche pas, enfin, des doubles splash pages, en tout cas des pages qui sont sur deux pages, mais il y a quand même des cases à l'intérieur. C'est pas Shaolin Cowboy, quoi.
Tout à fait, ouais, y a de la lecture, y en a même pas mal, enfin, normal, quoi. Et des splash pages, certes, mais voilà, du Ed Benes, je pense qu'il a pu se faire plaisir, et nous aussi, en même temps, il nous fait plaisir. Voilà, donc c'est pas plus mal. Je trouve ça vraiment bon, quoi. Voilà. Ça aurait pu être mon coup de cœur s'il n'y avait pas eu Walking Dead cette semaine.
Oui, mais tu es biaisé, on le sait.
Ouais.
Attention,
à défaut d'être. Oui, oui, voilà.
Oh non. Très bien. On va passer à la suite. C'est le Justice League of America numéro 9, tie-in à Forever Evil Flow.
Tout à fait, écrit par Mankind, dessiné par Tom Derenick et ancré par Tom Nguyen et Alan Martinez. Alors déjà, j'ai été étonné de voir Tom Derenick au dessin. Je pensais voir Doug Monkey. J'étais un petit peu déçu. Et deuxièmement, le premier épisode de Matt Kint, Taina Forever Evil, nous avait pas vraiment convaincus. Là, ça continue un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Martian Manhunter, dans cette fameuse prison étrange qui emprisonne tous les héros dans un petit peu leur propre peur et leur propre démon, il continue.
Et maintenant, d'ailleurs, on sait ce que c'est, hein, si vous avez lu Forever Evil 3, on ne va pas le dire au cas où il y aura encore des gens qui l'auraient.
On sait ce que c'est. Bon, c'est un peu chelou comme idée, mais bon, on sait
Je continue à trouver que c'est une idée qui est pas si mal que ça.
Bon,
ça explique le pourquoi de cette prison, finalement.
Oui, c'est sûr. Voilà. Martian Manhunter poursuit sa route dans la prison et passe voir d'autres héros. Il voit, donc, on l'avait laissé avec Simon Baz, il voit Madame Xanadu, etc. etc. Et Stargirl a perdu le lien avec Martian Manhunter, qui allait trop trop loin, trop profondément dans la prison, et va décider d'aller le retrouver pour s'en sortir, parce qu'elle a priori trouvé la solution pour se barrer,
chose qui n'est absolument pas raccord avec l'épisode précédent quand on regarde la fin où elle s'échappait déjà à la fin.
Il arrive
à retomber sur ses pieds d'ici la fin de l'épisode, mais
voilà,
moi j'ai eu du mal à rentrer dedans au départ parce que je me suis dit mais attends, elle était sortie, je comprenais pas en fait.
Oui, mais
il y a une explication, mais honnêtement moi ça m'a perturbé la lecture, donc je préfère l'annoncer maintenant pour les gens qui ne l'auraient peut-être pas encore lu. Vous inquiétez pas, il y a une explication logique à tout ça.
C'est un peu merdique.
C'est mal fou, c'est mal branlé, quoi.
Il y a un point qui m'a vraiment agacé, c'est que on suit donc Stargirl qui, elle, n'était pas encore rentrée dans la prison, et elle va repasser en fait par toutes les cases par laquelle est passé Martian Manhunter dans le numéro précédent. Donc c'est intéressant pour Stargirl qui redécouvre Shazam, Simon Baz, Wonder Woman, etc. Mais pour nous lecteurs, c'est la deuxième fois qu'on voit ces trucs là et donc ça n'a strictement aucun intérêt.
C'est peut-être pour ça que Doug Monkey a dit non, c'est bon, je vais pas redessiner deux fois la même chose.
Ça m'a vraiment agacé. Ce procédé m'a agacé, quoi. Et au final, ça traîne en longueur, c'est assez chiant à lire, et ça m'a pas du tout passionné, quoi. Donc voilà pour moi. Je suis vraiment très très sceptique quant à cet arc de Matt Kint, tie-in Forever Evil.
Bruno.
Ouais bah je suis moi je suis j'ai vraiment trouvé ça pas terrible comme tu dis hein. J'avais l'impression qu'on allait passer à autre chose après le numéro précédent, mais en fait on se retape la même chose que dans le numéro précédent. Juste on a le focus sur Stargirl, qui est pas spécialement hyper bien écrite en plus, je trouve. Enfin le personnage est pas super folichon. Ils essayent de placer deux trois origines par rapport à justement comment elle a récupéré son bâton et compagnie, mais c'est fait à la va-vite.
On est loin de l'écriture à la Geoff Johns de la JSA. Hein.
Ah ouais, mais c'est j'étais vraiment hyper déçu quoi. Puis voilà, c'est vraiment les poncifs en plus, voilà, les héros qui luttent un peu contre leur cauchemar, leur pire. Enfin c'est voilà, enfin, vraiment hyper déçu. Ça sert à rien ce numéro. Donc.
Allez
Et puis en
Monsieur
plus c'est pas
Kint.
très beau.
Allez Monsieur Kint. Un petit peu moins de comics, mais un peu plus de
Ouais.
bons comics.
Ouais, qui se calme et qui écrive des bons trucs comme Unity, parce que quand
Ouais,
il a
puis c'est
vraiment
pas
envie de
très
le
beau en
faire,
plus, donc.
Kirsten pas, il fait des bonnes choses.
Ouais, tout à fait d'accord. C'est vraiment pas terrible et ça donne pas envie de lire ce
Bah,
qu'il va faire après, quoi.
moi c'est simple, hein, je pense que je vais mettre sur pause la série jusqu'à la fin de Forever Evil et la reprise par Jeff Lemire. Hein. Ça me fait vraiment peur, quoi.
Moi.
J'ai aucun intérêt. En plus, le titre à 4 $, j'ai pas pour ah oui, bah voilà, il y a plus de backup, donc il est là. Bah, voilà, ce mois-ci, il est à 4 $ pour 22 pages, 20
Merci
pages.
d'essayer de nous faire payer 1 $ de plus pour 2 pages.
Et donc, ouais, pour 22 pages, donc non, voilà, c'est vraiment très passable,
La couverture est plus rigide.
Elle est,
L'arnaque de l'année,
ouais,
quoi.
elle est laide, elle est laide.
Ouais, non, mais c'est de la merde. C'est pas un argument qui justifie 1 $ de plus, ça. Je suis désolé. Ça, ça
Je suis d'accord. Non,
s'appelle.
non, c'est une pure escroquerie, mais.
Ça s'appelle se faire prendre sans vaseline avec des graviers.
Carrément.
Et des morceaux de verre pilé. Un peu comme dans le film avec Van Damme.
Et puis par rapport à ce que tu disais, maintenant en plus qu'on sait où ils sont emprisonnés et comment ils sont arrivés là, en plus je trouve que ça développe pas du tout cette idée. J'aurais aimé
Ben
qu'on
non.
revienne là-dessus et là ça, enfin on perd notre temps quoi. Donc hyper déçu.
Ouais.
Pour ma part, j'irai quand même voir le prochain juste à cause de la page finale, mais c'est vraiment la dernière chance que je lui donne.
Mais oui, mais enfin voilà, ce numéro on peut le mettre
Pour
en
moi,
parenthèse quoi.
cette série déjà était pas bonne. J'avais arrêté à l'épisode 1 parce que je trouvais ça chiant. J'ai repris pour Forever Evil, enfin pour Trinity War. Je sens que je vais réarrêter très vite et je reviendrai comme toi, Flo, pour Jeff Lemire, quoi. Ou Jeff Lemire, plutôt.
Moi, j'avais
Ouais.
beaucoup aimé le premier arc et c'est vraiment la partie Forever Evil que je trouve mauvaise, quoi.
Donc on va donner les notes quand même. Si vous
Bah.
n'aviez pas compris, pour ma part, ce sera un check-it moins, à la limite
Ouais.
du pass.
Check it
Ouais,
moins.
bah. Bon, j'ai mis passe à Green Lantern Corps, je vais mettre passe aussi, hein, soyons justes.
Valentin?
Bah moi pareil passe. Au début je voulais pas en parler mais voilà c'était pour signaler que c'est pas terrible terrible quoi.
On va terminer notre section de review avec la sortie du deuxième épisode de Superman Wonder Woman Bruno.
Oui, et c'est écrit par Charles Soule avec des dessins de Tony Daniel. Et après deux très mauvaises lectures chez DC, je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va être mieux Superman et Wonder Woman. Et effectivement, puisque ça a failli être mon coup de cœur de la semaine. Donc on retrouve ce combat entre Wonder Woman et Doomsday. Doomsday qui était apparu comme par magie sur un bateau. Elle était en train de se faire défoncer la gueule par la créature et tout d'un coup Doomsday disparaît dans des lumières un petit peu roses et hop il disparaît dans une autre dimension. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a Superman qui arrive et qui vient discuter avec elle pour voir un peu contre qui elle s'était battue parce que lui il avait pas pu voir qui était cet ennemi. Et du coup on en apprend un peu plus sur Doomsday, où il est. On voit qu'il a été enfermé dans la forteresse de celui enfin dans la zone fantôme. Mais que du coup il y a peut-être des créatures qui arrivent à passer en dehors de la zone fantôme là. Donc ça fout la merde. Et ça c'est une partie du comics, et l'autre partie c'est plutôt les retrouvailles entre la famille de Wonder Woman et Superman. Et là on a droit à des scènes très intéressantes où enfin on a la partie Azarello qui rejoint la partie DC enfin, classique, puisqu'on y voit tous les personnages qu'on a pu voir dans le run d'Azarello chez Wonder Woman, que ce soit
On y voit
Apollo et compagnie, et c'est
Apollo,
vraiment très bien
Héphaïstos et
amené,
Strife.
très bien écrit. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment hyper fun, puisque eux, c'est des dieux, et ils sont là en train de dire, oh, tu es avec ce pauvre alien et tout, tu nous fais pitié, Wonder Woman. Enfin bon, Superman a quand même de la ressource, et il y a deux, trois petites scènes qui sont assez sympas entre Apollo et Superman. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça cool.
Je trouve très bien, Flo, c'est tout bête, hein, mais que tu aies traduit en français le nom du personnage cette fois-ci, que tu l'as appelé Apollon, ça évite la confusion avec le Apollo.
Ah oui, c'est vrai, c'est
Star Watch. C'est un peu le problème, c'est que du coup, on a deux personnages qui s'appellent pareil. C'est un peu con, quoi, mais bon.
Ouais, c'est bon, c'est personnage mythologique, mais
non, voilà, c'est vraiment pour faire la distinction, pour que bah, c'est vrai tout que nous fait. En France, on n'est pas habitué à l'appeler Apollo. Il s'appelle Apollo en anglais, mais voilà, c'est bien Apollon le dieu et non pas Apollo de Stormwatch.
Donc voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça hyper plaisant à lire. Il y a un bon petit cliff à la fin également, et puis alors les dessins de Tony Daniel, moi je les trouve somptueux. Donc ça fait plaisir. Pour moi, c'est mon titre Superman préféré actuellement.
Valentin, tu l'as lu aussi ?
Bah, Bruno a tout dit, hein. Les dessins sont géniaux, l'histoire est pas mal. Les scènes entre justement la famille de Wonder Woman et Superman est géniale. Donc je crois qu'il a un peu tout dit. C'est vraiment une très bonne lecture et ça change des autres titres Superman que j'ai pu lire avant et que j'ai vite lâché.
Flo, oui, bah, si
tu veux. Je suis globalement d'accord avec Bruno et Valentin. Oui, c'est beau, l'histoire est sympa. J'aurais un point positif, c'est de voir les personnages effectivement du Ron Dazzarello. Ça, c'est vraiment cool de le voir interagir avec Superman et tout. Ça fait plaisir. Bon, après, ça ne fait pas avancer des masses l'histoire, mais c'est rigolo à voir. Voilà. Et du coup, ça en découle le point négatif de ce numéro, c'est que ça n'avance pas des masses. Il y a un bon petit cliff, c'est vrai, mais je m'attendais à un truc un peu comme le numéro 1. La lecture est pas très très dense en fait. On sent aussi que Tony Daniel, Charles Soule est aussi pas mal au service quand même de Tony Daniel pour faire des très belles planches, et c'est assez décompressé. C'est le seul point noir de cette série pour le moment, c'est que ça prend pas mal son temps et ça se lit assez vite. Très bon, c'est très sympa.
Apollon dessiné par Tony Daniel, ça en fait un perso hyper intéressant, hyper charismatique. Enfin, ça déchire. Moi, j'adore ce perso. Quoi. Déjà dans le Ron Dazzarello, il est excellent et là, c'est cool.
Ouais. En plus, les persos sont bien écrits. Il n'y a pas la gouaille, on va dire, Dazzarello évidemment. Hein,
c'est
le liste hors pair. Mais c'est différent. Mais il a bien les persos. Strife est assez fun aussi, donc c'est cool. Ouais.
C'est peut-être intéressant justement d'avoir une autre vision de ces personnages-là qu'Azzarello avait gardé de son côté. Et d'ailleurs, c'est très bien aussi qu'un scénariste se garde des gens, des personnages qu'il maîtrise totalement. C'est peut-être pas mal, surtout écrit par Charles Soule, qui est quand même qui nous prouve mois après mois qu'il est très très bon.
Ah là, qu'est-ce qu'il est bon, ce scénariste.
Putain. On n'a pas parlé des Swamp Thing, là, l'annual et le numéro 25 qui est sorti la semaine dernière. C'était génial. Putain, c'était génial.
Ça va devenir notre petit chouchou, hein.
J'adore.
Ah, mais on a du beau monde, hein, qui débarque là depuis un ou deux ans. On a de nouveaux scénaristes qui sont vraiment très bons. Espérons que Charles Soule, par contre, ne suivra pas le chemin de Matt Kint, même s'il en prend un petit peu la direction à multiplier les séries. Espérons qu'il continuera à nous produire autant de qualité. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous voulez passer aux notes, messieurs.
Eh ben, un gros bail pour ma part.
Un bail.
Flo, vas-y.
Ça sera un bail, mais un peu moins que les autres bails que j'ai donnés dans cette émission.
Un petit bail moins, quoi.
Voilà.
Et moi, Valentin, un bon gros bail.
Voilà, c'est tout pour nos reviews de la semaine. J'ai envie de dire petite semaine, quand même. Hein.
Ah ouais, ouais, petite semaine.
Pas mauvaise semaine, mais petite semaine, quoi.
Mais il y avait Unity, donc ça va.
Que je n'ai pas lu malheureusement, j'ai pas eu le temps. On va passer au TPB sorti cette semaine maintenant et on commence avec du Dark Horse. C'est Bandette volume 1 qui sort, ça s'appelle Presto, c'est un hardcover, c'est au prix de $15. Bandette, c'est cette série qui a été nominée aux Eisner Awards, 4 fois d'ailleurs aux Eisner Awards de 2013, et qui est publiée chez Monkey Brain. Et c'est donc les 5 premiers épisodes de cette série, d'abord digitale puis maintenant qui sort en papier, qui a récupéré Dark Horse. Et c'est très bien, je trouve, de la sortir pour le public, de sortir justement pas des singles, mais juste des hardcovers ou des TP comme ça, de produits digitaux, pour leur donner une seconde vie. Je trouve ça une très bonne initiative. Passons ensuite à Conan, qui nous sort un colossal Conan, toujours chez Dark Horse, un énorme omnibus, $150. Effectivement, c'est cher, mais vous avez les 50 épisodes même 51, puisque vous avez le numéro 0 de Conan, publié chez Dark Horse, avec du Kurt Busiek au scénario. Vous avez aussi du Mac Mignola, vous aurez du Dave Stewart, du Richard Isanov. Bref, vraiment un gros paquet de très très bons artistes. 51 épisodes dans cet énorme objet d'omnibus, hein, ça fait 1264 pages.
C'est bien, ils font rarement Dark Horse ce genre d'omnibus, hein. Enfin, des volumes aussi gros.
Ouais.
C'est cool.
Là,
c'est cool.
C'est bien de le sortir juste avant Noël en plus. Vous aurez aussi du Carrie Nord, notamment, dans l'épisode Carrie Nord que vous retrouvez actuellement chez Valiant.
Ouais, sur Exo Manowar.
Voilà, donc gros objet. J'aurais pu le mettre dans la sélection Noël. Ça reste une sortie de la semaine, j'ai préféré le classer dans la section TPB. Passons maintenant à DC, quelque chose qui va faire plaisir à Bruno, puisque c'est la sortie du premier hardcover, de Injustice Gods Among Us.
Tout à fait. Un titre vraiment très sympa que j'ai suivi en single. Et bon, là, ils le sortent en hardcover parce que le titre a bien marché, donc ils veulent faire un peu de sous. C'est dommage, j'aurais préféré que ce sorte en TPB pour que plus de gens puissent le lire. En souple, quoi, je veux dire. Mais,
oh, ça va arriver. Hein.
En tout cas, ça vaut le coup.
Ça va arriver dans les prochains mois,
dans un second temps. Ouais, dans un second temps.
C'est au prix de $20 et ça reprend les 6 premiers épisodes de la série Injustice Gods Among Us. Rappelons que le deuxième volume va bientôt sortir et qu'il sera ancré par notre chouchou favori JHB.
Cocorico.
Toujours chez DC, vous avez le Joe Kubert Presents TPB qui sort aussi. C'est à $20. Ça reprend la mini-série en 6 qui était sortie l'année dernière avec les derniers travaux de Joe Kubert. Pour ceux qui l'auraient raté, qui auraient envie de retrouver cette chose-là, qui sont peut-être passés à côté. Vous avez du Sergeant Rock, du Hawkman, vous avez pas mal de petites histoires comme ça de guerre, hein, chose qu'il savait très 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 bien faire. Enfin, chez DC, nous avons le Silver Age Teen Titans Archives volume 2 avec les Teen Titans numéro 6 à 20 et Brave and the Bold 83. C'est bien sûr la série des années 60. C'est au prix de $75. C'est un gros objet. Si vous voulez redécouvrir les Teen Titans des origines. Passons maintenant à Dynamite. Dynamite qui nous sort le 12e TP de Red Sonja et qui en profite pour nous sortir un omnibus aussi de Red Sonja à $30, le quatrième volume de cet omnibus. Donc si vous êtes fan de la rouquine barbare, eh bien jetez-vous dessus puisque ces versions omnibus permettent d'avoir un maximum d'épisodes. Ça fait 400 pages, un petit peu plus de 400 pages, un maximum d'épisodes à très peu cher parce que c'est qu'à $30 seulement.
Ouais, c'est pas cher.
Ce sont des omnibus mais TPB et non pas hardcover. Chez IDW maintenant, pour les fans d'horreur, vous avez Haunted Horror qui sort en hardcover. Ce sont des gros épisodes, hein, qui sortent tous les mois à peu près, une centaine de pages, avec des vieux comics d'horreur, mais pas ceux que vous retrouvez dans les collections d'habitude. Ce sont plutôt des histoires un petit peu oubliées, celles qui sont passées un petit peu entre les mailles du filet de ces rééditions. C'est vraiment pas cher, ça vaut $24.99. Ça vous permettra de découvrir tout un tas de petites histoires oubliées. Voilà, ce sont des choses qui se lisent assez vite. Mais pour les fans d'horreur, justement, c'est du très très bon, des vieilles histoires des années 50. Chez Image maintenant, alors c'est quelque chose qui sort en français déjà, c'est Chou qui sort dans une nouvelle édition qui s'appelle la Smorgasbord Edition. Ça vaut $100, c'est assez cher. Ça reprend les 20 premiers épisodes de la série, mais dans une édition avec slipcase, oversize. Il y a plein d'extras à l'intérieur. Si vraiment vous êtes un gros fan de cette série, c'est le meilleur moyen de découvrir cette série. Alors oui, c'est cher, mais jetez-vous dessus, c'est vraiment du très très bon. Là, vous aurez une édition vraiment ultime. Chez Marvel maintenant, Essential Daredevil numéro 6 sort avec les épisodes 126 à 146, l'annual numéro 4, ainsi que Iron Man 88-89, puisqu'il y avait un petit crossover, et le Ghost Rider numéro 20. C'est toujours du noir et blanc, ça reprend les vieux épisodes. C'est au prix de $20, c'est pas cher si vous voulez relire le début de la carrière de Daredevil. Nous avons le Hulk par Jeff Lubb, Complete Collection, qui sort avec les 12 premiers épisodes, ainsi que le King Size, Hulk, le Incredible Hulk 600, et du matériel de Wolverine numéro 50. C'est au prix de $35, je trouve que c'est un petit peu cher. Pour du TP, en tout cas.
Ouais.
Si vous voulez redécouvrir l'arrivée du Red Hulk, ce fameux Hulk qui débarquait et qui faisait tout un tas de dégâts sans qu'on ne sache qui c'est à l'époque. C'est vrai que maintenant que la surprise est éventée, ça peut être un petit peu moins d'intérêt. Chez Marvel, toujours, nous avons le Marvel Masterworks Marvel 2-in-1 Hardcover Volume 1. Avec Marvel Feature 11 à 12 et les Marvel 2-in-1 numéro 1 à 10, pardon. Marvel 2-in-1, c'était une série où on avait The Thing en tandem avec quelqu'un d'autre, l'équivalent du Marvel Team-Up où on avait Spider-Man avec quelqu'un d'autre dans chaque épisode. C'est au prix de $70, c'est de la grosse édition luxueuse, si vous voulez redécouvrir ces épisodes avec notamment du Jim Starlin au dessin. Et enfin, pour notre section un petit peu cadeau de Noël, vous avez chez Dynamite Art of Sean Phillips qui sort en hardcover, ça vaut $40 et ça va reprendre les meilleures illustrations de ce superbe dessinateur. Un bon gros cadeau de Noël.
Ouais, j'ai pu le feuilleter, et c'est sublime, c'est un peu oversize, il y a des interviews, il y a énormément d'illustrations et c'est vraiment un très bel objet.
Et ça passe un petit peu sur sa carrière, sur Hellblazer, sur la carrière avec
même,
Booker,
même des choses hein, qu'il avait fait chez 2000 AD.
Oui, avant qu'il arrive sur Hellblazer, effectivement.
Voilà, puis bon, il y a des choses chez Vertigo, il y a des choses chez Marvel, chez DC, mais c'est bien sûr c'est créateur owned avec Ed Brubaker, il y a un petit peu de tout. Ça reprend voilà les meilleures illustrations. Une très très grosse édition pour les fans du monsieur et un très 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 joli cadeau de Noël. Ça vaut $40 en plus, c'est pas si cher que ça. Ça fait combien de pages à peu près, Bruno, puisque tu l'as eu entre les mains,
je... Oui, 200 pages au moins, je pense.
Ah oui, quand même, oui. Donc oui, c'est vraiment un gros bouquin. C'est tout pour cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter, bien évidemment, @ComicCity. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes. Messieurs, merci. Allons célébrer cette victoire dignement.
Ah oui, on va se bourrer la gueule.
Ah. Champagne.
Ouais, on va... ça va être cool.
Non.
On va picoler pour fêter... sur Skype.
Pour fêter ça, on va faire un podcast. Non, je plaisante.
Un spécial.
Un spécial de 8 heures. Allons-y, soyons fous. On se retrouve la semaine prochaine pour le Weekly News. Et la semaine prochaine, vous aurez aussi le Comic City avec les sorties VF, puisque c'est cette semaine que sortira votre mensuel sur toutes les publications VF de comics que l'on a pu avoir en ce mois de novembre. À la semaine prochaine, et comme d'habitude, portez-vous bien.
Ciao à tous.
Salut. Bye les gens.
Salut tout le monde. And you're heading up to Wreck and Roll.